prix Nobel d'économie vient d'entrer dans le studio.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Le prix Nobel d'économie, c'est vous, Joseph Stiglitz, bonjour. Vous venez de publier La Grande Fracture, les sociétés inégalitaires et ce que nous pouvons faire pour les changer aux éditions des Liens qui libèrent. Et puis nous sommes également en compagnie d'Annabelle Grelier de la rédaction. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Et de Philippe Manière, notre chroniqueur économique du mardi. Dans votre livre, Joseph Stiglitz, vous racontez une histoire d'autobus, d'un drôle d'autobus. Il contient 80 milliardaires. Et vous dites que cet autobus contient exactement la moitié de la richesse mondiale, autrement dit, la moitié des pauvres de l'humanité tout entière ont un patrimoine, si l'on peut dire, équivalent à celui de ces 80 milliardaires. Est-ce inédit dans l'histoire de l'humanité ?
Il est très clair que l'inégalité a atteint un nouveau sommet. Et simplement, c'est une image pour décrire l'inégalité à l'échelle mondiale. Dans certains pays, comme les États-Unis, nous avons des chiffres très dramatiques de ce point de vue-là. Il y a 8 Américains qui ont hérité leur argent par leur famille, les Walton pour Walmart et les frères Cole, qui ont autant de fortune que les 44% de la population américaine les moins riches. Donc ceci est un exemple de la richesse qu'il y a au sommet, mais c'est également une preuve de le peu de patrimoine qu'il y a dans le bas de l'échelle. Et donc cette crise de 2008, due par les excès de ces gens riches et des banques, eh bien les choses ont empiré. Les banquiers qui ont causé la crise s'en sortent très bien. Mais ceux qui sont en bas de l'échelle, ils ont été complètement dans une situation désastreuse. Les Noirs, les gens d'origine d'Amérique latine sont dans une situation terrible. Eux n'ont pas connu la reprise.
Mais pendant très longtemps, Joseph Stiglitz, les économistes nous ont raconté une histoire de ruissellement. Le ruissellement, c'est l'idée selon laquelle la richesse des riches permettrait aux pauvres d'être moins pauvres. Cela signifie-t-il, selon vous, que cette théorie du ruissellement qui a justifié les inégalités jusqu'ici est une théorie erronée ?
Totalement. J'aurais souhaité qu'elle soit vraie parce qu'on a donné tellement d'argent au sommet et donc nous, on serait tous vraiment en très bon état si la théorie du ruissellement fonctionnait. Mais on le voit de façon extrêmement claire aux États-Unis. Bien que le sommet s'en sort très très bien, les classes moyennes et en dessous, les revenus sont moindres que ce qu'ils étaient il y a 25 ans. Et en bas de l'échelle, les salaires minimaux sont aussi bas qu'ils l'étaient il y a un demi-siècle. Donc le progrès de notre société a été significatif, bien sûr. L'activité a continué à croître, mais les bénéfices de cette productivité ont été capturés par un tout petit morceau du sommet. Et le reste de la société n'a pas participé.
Cela signifie que le partage de la valeur ajoutée, que le partage des bénéfices entre le travail et la richesse financière se fait différemment aujourd'hui, Joseph Stiglitz ?
C'est exact. On le voit très clairement dans les statistiques de la productivité. Au cours des dernières 25 années, la productivité a doublé, mais les salaires, eux, ont stagné. Donc, normalement, dans une économie normale, lorsque la productivité augmente, les salaires devraient augmenter. Mais ce n'est plus vrai.
Annabelle Gourlier.
Vous dites, Joseph Stiglitz, que de l'économiste français Thomas Piketty, qu'il voit juste sur la gravité du problème, c'est-à-dire ses 1% et ses inégalités, mais il n'a pas entièrement raison sur sa cause et sur sa solution. Sa solution passerait entre autres par un impôt mondial sur la fortune. Vous n'y croyez pas vraiment. Vous seriez plus pour une réforme fiscale. Mais qu'est-ce que serait qu'une vraie réforme fiscale alors ?
First, I think the D'abord, je pense que le problème fondamental, c'est toute la structure de notre économie. Nous avons affaibli les syndicats, nous avons des erreurs dans la gouvernance, là où les PDG peuvent se payer des sommes énormes, nous avons des puissances monopolistiques qui ne sont pas limitées, nous avons un secteur financier qui se taille la part du lion sur le reste de l'économie. C'est pas simplement les économies, c'est pas l'économie du capitalisme qui est en cause. Il faut réformer les structures fondamentales de l'économie. De certaines manières, ça nous donne plus d'espoir que le diagnostic de Piketty. Parce que Piketty, il faut taxer le capital. En fait, il faut changer les règles par notre démocratie. On peut changer le capitalisme et rendre l'économie de marché comme elle est censée fonctionner. Et à ce moment-là, on aura une économie qui fonctionnera mieux et un meilleur partage de la prospérité.
Il y a dans votre livre, Joseph Stiglitz, La Grande Fracture, publié au Lien qui Libère, un chapitre très amusant intitulé « Les imbéciles du capitalisme ». Et lorsqu'on entend des histoires de parachutes dorés, on peut évidemment être choqué par le montant des sommes annoncées, mais surtout, on se dit que les actionnaires s'appauvrissent eux-mêmes, puisqu'on ne voit pas très bien pour quelles raisons ils donneraient quelques millions d'euros à un individu qui quitte une entreprise. Pourriez-vous nous expliquer quelle est la rationalité de ce capitalisme-là ?
Moi, cette controverse en France, je la trouve un petit peu amusante. Parce que c'est petit bras par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Le PDG moyen aux États-Unis, le moyen, reçoit un salaire qui représente 300 fois le salaire du travailleur de base. Et ça passe de 20 à 30 il y a quelques années, 30 ans, il y a 30 ans. Donc, il y a vraiment du chemin à faire pour vous, pour devenir aussi choquant qu'aux États-Unis. Ça n'a pas amélioré la performance des entreprises. Parfois, on parle véritablement, ils reçoivent cette prime parce qu'ils ont amélioré la valeur de l'action. Mais regardez ce qui se passe avec le prix de l'action. Quand les taux d'intérêt baissent, eh bien, les actions montent. Quand les prix du pétrole baissent, les actions montent. Pourquoi est-ce que c'est le PDG qui doit être récompensé quand c'est le prix du pétrole qui baisse, quand c'est les taux d'intérêt qui baissent? Ça n'a aucun sens. C'est ce que je dis. Il y a un problème de gouvernance de l'entreprise où les PDG qui dirigent l'entreprise prennent pour eux, et même pas pour leurs actionnaires, même pas pour les autres parties prenantes, leur communauté, leur société, leurs travailleurs.
Mais on nous a expliqué que le capitalisme était un système rationnel, on nous l'explique depuis Adam Smith, et ce système tel que vous le décrivez, Joseph Stiglitz, est tout simplement un système irrationnel, puisqu'il n'y a aucune raison de payer un être humain 100 millions de dollars par an, alors que d'autres peinent à avoir 10 dollars de l'heure comme salaire minimal.
I agree.
Je suis d'accord. And
this reflects
et cela reflète non pas les lois de l'économie normale, de la DOF, de l'offre et de la demande, cela reflète le fait que il y a des endroits de notre économie où il y a du pouvoir. Le PDG a le pouvoir de décider quel est son propre salaire. Et nous n'avons pas le système de contrôle adéquat pour contrôler ces abus de pouvoir dans nos lois de la gouvernance de l'entreprise.
Philippe Manière.
Oui, non, ce que disait le professeur Stiglitz à l'instant me paraît très important sur le fait qu'il dit en France on est un peu petit bras sur tous ces excès. Je crois que c'est un sujet sur lequel c'est intéressant qu'on puisse l'entendre aujourd'hui tout en sachant que les problématiques françaises sont quand même assez différentes. Typiquement sur les inégalités, il y a des inégalités en France, elles se sont accrues dans le temps mais elles sont sans aucune comparaison avec les inégalités qu'il y a aux États-Unis, ni les inégalités de patrimoine, ni les inégalités de revenus. D'une part parce que la distribution des revenus primaires, c'est-à-dire ceux qu'on acquiert par son travail ou par sa fortune, est bien plus resserrée en France qu'elle l'est aux États-Unis, et aussi et surtout, on en parlait tout à l'heure, parce que le système fiscal et de redistribution en France est massif. Et donc très souvent, on a de part de d'observateurs et de spécialistes américains, comme le professeur Stiglitz, je pense aussi à Paul Krugman, des observations qui sont très justes s'agissant des États-Unis. C'est vrai que la distribution des revenus du patrimoine aux États-Unis a pris une forme qui est très singulière, qui peut choquer au regard des critères élémentaires de la démocratie, mais qui s'applique en fait assez peu à la France, parce que nous, on a encore un certain nombre de systèmes correctifs. Je dirais même, comme vous le savez, j'ai tendance à penser qu'il y en a plutôt au moins autant qu'il est nécessaire, voire peut-être un peu plus.
Joseph Stiglitz, votre sentiment ?
La France est un des très rares pays où les inégalités n'ont pas cru dans les années avant la Grande Récession. L'inquiétude, c'est depuis que la Grande Récession a débuté, les inégalités ont augmenté. Mon inquiétude, la raison pour laquelle, bien sûr, dans mon livre, je mets l'accent sur l'Amérique, mais dans trop d'endroits, il y a cet argument que, ah oui, il faudrait prendre le modèle américain, on se dit ça. Mais mon point de vue, c'est que si vous imitez le modèle américain, vous aurez les résultats que nous avons aux États-Unis. Et ce que vous allez voir, c'est l'accroissement de l'inégalité. Les profits, les bénéfices de la croissance iront à très peu, et la société ira plus mal.
Selon vous, Joseph Stiglitz, l'inégalité procède d'un choix. Certaines économies, les économies capitalistes notamment, des pays les plus développés, ont fait le choix d'être des sociétés inégalitaires. Qui a fait ce choix et pourquoi ?
C'est le processus politique. Mais je ne pense pas qu'ils étaient parfaitement conscients de cela. En 1980, le président Reagan a dit au peuple américain, voilà une idée. C'était le supply side economics. On va diminuer les impôts des plus riches, on va libéraliser, on va déréglementer. Et oui, les plus riches vont avoir une partie plus importante, mais l'économie sera libéralisée et on va croître tellement que tout le monde ira mieux. Ils auront une part peut-être plus petite, mais d'un gâteau beaucoup plus grand. Ils avaient raison, il y avait une croissance de l'inégalité, mais ils avaient tort sur le reste de leur théorie. La croissance de l'économie, en fait, elle a diminué, elle a ralenti. La croissance est beaucoup moins rapide qu'elle l'était après la Seconde Guerre mondiale. Et le résultat, c'est que la plupart des Américains ont vu leurs revenus stagner. Et couche par couche, brique par brique, cette inégalité a augmenté. C'était un choix, mais c'était un choix qui a été pris de façon irraisonnée. Et un tiers de siècle après, on a le résultat de cette expérience de Reagan. Et moi, je crois, si il y a un tiers de siècle, on avait dit aux Américains, voici les belles idées, et le résultat sera que 80% des Américains iraient plus mal qu'aujourd'hui. Ah ben, ils n'auraient pas fait ce choix.
Annabelle Grelier.
Oui, alors j'en reviens à la question fiscale, peut-être parce que nous sommes champions du monde un petit peu en la matière en France, mais vous dites quelque chose de très intéressant dans votre livre. Vous dites qu'un système fiscal bien conçu fait plus que rapporter de l'argent. Il peut servir à rendre l'économie plus efficace et à réduire l'inégalité. Alors, à quoi ressemblerait, Joseph Stiglitz, un système fiscal bien conçu ? Quels en sont les principes ?
Il y a beaucoup de principes, mais l'un d'entre eux, par exemple, il faut imposer les mauvaises choses plutôt que les bonnes choses. Il faut taxer la pollution, imposer la pollution. Il faut imposer la trace carbone, par exemple. Il faut imposer, vous avez une réunion extrêmement importante ici en décembre, la COP21, sur la pollution. Si vous utilisez cette occasion pour promouvoir l'idée que l'on devrait imposer les émissions de carbone, il y aura moins de réchauffement global, une meilleure économie, un meilleur environnement et plus de bénéfices, plus de profits. L'autre exemple, par exemple, taxer les excès du système bancaire découragerait ces déformations de l'économie et on aurait un système bancaire et une économie plus efficaces.
Aux États-Unis, des libertariens, autrement dit l'aile radicale des positions libérales, considèrent de plus en plus, Joseph Stiglitz, que si l'air, l'eau étaient privatisées, eh bien il y aurait des bénéfices écologiques, tout simplement parce que ces substances auraient des propriétaires, et ces propriétaires veilleraient à ce qu'ils ne soient pas pollués. Alors, du coup, on se retrouve dans une situation un peu paradoxale où la nature est défendue par des gens qui sont excessivement capitalistes. Vous qui êtes un défenseur de la cause écologiste, que pensez-vous de ces solutions ?
They would not work.
Ça fonctionnerait pas.
They would serve some special interests.
Ça servirait des intérês particuliers.
In the 17th century,
au XVIIe siècle, au XVIe siècle, il y avait un problème de, vous savez, on faisait de surpâture. Hein, il y avait des troupeaux qui pâturaient trop sur certains endroits. Et ce qu'on avait fait, eh bien, on a privatisé l'espace. Ça a créé l'inégalité, ça a créé la pauvreté. Il y avait une autre façon de faire. Et il y a eu un prix Nobel qui a travaillé là-dessus et qui a dit qu'on pouvait faire des règlements. On pouvait savoir que les troupeaux ne pâturaient pas trop sur telle parcelle. Il y avait une solution plus égalitaire et plus efficace.
Donc vous pensez que le capitalisme a la possibilité de se réformer, puisque vous ne plaidez pas en faveur d'une destruction du capitalisme, mais d'amendements raisonnables en quelque sorte.
Absolutely, we can reform capitalism.
Oui, on peut réformer le capitalisme, mais c'est un processus politique. Donc, pour réformer le capitalisme, il faut réformer notre démocratie. Et c'est un problème particulièrement aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on est passé d'un système de un individu, un vote, vers un système de un dollar, un vote. Et avec tellement de pouvoir politique concentré au sommet, il y a des résistances pour tenter de réformer le capitalisme. Donc, nous savons ce qui doit être fait, mais c'est très difficile.
Joseph Stiglitz, on vous retrouve à 8h15. Vous continuerez à nous parler de ce que vous évoquez dans votre ouvrage « La grande fracture » aux éditions des Liens qui libèrent.